À bord, chaque centimètre carré est optimisé. Indispensable lorsqu'il s'agit de stocker 50 jours de vivres pour 80 bonshommes. C'est donc au bout de sa couchette que le commis range les centaines de kilos de farine nécessaires à la fabrication quotidienne du pain. Chaque jour, il joue avec ses cartons une partie de Tetris assez périlleuse. Tout petit, je rêvais d'aider les autres. Sauver, secourir, protéger. Finalement, je suis journaliste et j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui exercent des métiers hors du commun. Me voici au beau milieu de la Méditerranée, à bord d'un sous-marin nucléaire d'attaque de la marine française.
Il y a carrément écrit Exocet là.
Ah oui, c'est un missile.
Les forces sous-marines françaises, 3500 hommes à peine, 10% des effectifs de la marine.
Top un bateau.
Commandant, il ne sait pas qu'on le regarde.
Il m'intrigue, ces hommes qui passent 6 mois par an sous l'eau, coupés du monde et de leurs proches.
Je pense qu'il faut que je m'arrête maintenant parce que après, mon épouse ne me comprendra pas.
Alors je vais passer 6 jours et 6 nuits avec eux, à bord du sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca. Tout commence au port militaire de Toulon. C'est ici que se concentre la majeure partie des forces navales françaises. Quelques semaines avant le départ, je demande à Damien, le commandant en second du Casabianca, de m'emmener en cale sèche, où la bête s'offre un petit lifting avant la grande plongée. J'ai des films en tête. À la poursuite d'Octobre Rouge, USS Alabama ou encore Das Boot. Des films de sous-marins. Et pour dire vrai, je suis curieux et un peu inquiet.
Et c'est l'avant, hein, ça.
Là, on est à l'avant du sous-marin. C'est la partie névralgique, puisque ce sont les tubes lance-torpilles que l'on voit là. De là sortent nos missiles, nos torpilles, les mines, toutes les armes que l'on peut lancer. Voilà, donc c'est un gros suppositoire, en fait. Un gros suppositoire de 3000 tonnes. 70 mètres de long, 70 personnes à bord, une chaufferie nucléaire, des armes. Donc, tout ça, c'est compacté. Des vivres pour pouvoir durer le plus longtemps possible en mer. Et avec tout ça, on navigue pendant 4 mois.
Donc, ouais, vu d'ici, c'est quand même une sacrée bestiole, quoi.
On a l'avantage avec nos propulsions nucléaires de pouvoir avoir une allonge illimitée, une endurance illimitée.
Illimitée.
C'est illimité.
En fait, en théorie.
Voilà, ce qui nous limite, c'est notre capacité, nous, à durer et nos vivres. Pour pouvoir, donc il faut que ponctuellement on aille recompléter les vivres, mais le sous-marin, lui, peut durer très longtemps à la mer et aller très loin, très vite.
À l'arrière, il y a un secret sur l'hélice, hein, c'est ça un peu ?
À l'arrière, c'est notre signature. Donc, l'hélice, on la montre pas. On peut pas y aller. Par le bruit que fait l'hélice, on peut être capable de déterminer de quel type de bateau il s'agit.
De l'identifier, quoi.
Et en plus du type, on est capable de dire parfois quel sous-marin il s'agit, de quel bâtiment de surface il s'agit, ce genre de choses.
On est maintenant à 48 heures du départ. L'arsenal est une ruche.
Je monte tout doucement, juste de façon à ce que ça passe.
Le Casabianca quitte le bassin, tiré par 2 remorqueurs de la marine, pour rejoindre son quai de chargement. Pour la corvée des vivres, tout l'équipage est mobilisé. Les camions sont déchargés carton par carton et embarqués par le sas le plus large du bateau. Un trou d'à peine 1 mètre de diamètre C'est par là que tout ou presque entre et sort du Casabianca. À l'avant du bateau, on vient de livrer l'armement du sous-marin. Des torpilles pour attaquer et détruire les navires ennemis. Et des missiles pour les cibles en surface, les fameux exocètes. Le jour du grand départ, comme tous les membres d'équipage, je suis convoqué pour l'appel.
Bienvenue.
Bon, on y est ?
On y est.
Ça fait plusieurs semaines que l'équipage s'entraîne au large des côtes de Toulon. Comme moi, ils sont tous impatients de prendre la mer.
À l'appel de votre nom, vous répondez présent et vous ralliez le bord. Capitaine de corvette, roule-le.
Présent.
Le nom de vaisseau, roule-le.
Nous sommes un peu plus de 70 hommes à embarquer, dont une dizaine pour la première fois. Moyenne d'âge 28 ans. Aucune femme. Je serai le doyen à bord.
Monsieur Ondelatte.
Présent.
Pendant, on est complet à part pour le matelot poulain. Parfait, il n'y a plus qu'à.
Voici donc ma nouvelle maison. Dans quelques secondes, je vais découvrir l'intérieur d'un sous-marin. La France en possède 6 comme celui-là.
C'est parti.
Pour moi, la surprise est totale.
Vous prenez 5 ? Ah, c'est cool.
De tranche, bravo. Diffusion générale, signaux d'alerte et de rappel au poste de combat bien fonctionné.
Si de l'extérieur, la coque est imposante, à l'intérieur, tout est minuscule. 6 jours dans cette boîte de conserve. Sacrée aventure.
C'est bon ?
Montrez-moi ma couchette.
Voilà.
Ma chambre.
Les meilleures couchettes sont attribuées en priorité aux plus anciens. Et comme je suis un petit nouveau, je dois m'attendre au pire.
Bonjour,
mais
bonjour.
C'est encore pire que ce que j'imaginais. On m'installe à l'avant, juste derrière les tubes lance-torpilles.
Voilà dans la tranche arme.
Dans la ventilation en diesel.
Arme, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire entre des... De dormir entre les torpilles et des missiles.
Je vais dormir entre les torpilles et
voilà.
Les missiles.
Voici votre...
Il y a carrément écrit Exocet, là.
Ah oui, ça c'est un missile.
Exocet.
Voilà un missile au-dessus. Et voici votre lit. Ici, donc vous avez une torpille en dessous.
Et voilà. Ça c'est mon truc pour mettre mon sac. Tiens.
Exactement.
Ah bah c'est pas mal.
Et on appelle les ranges, donc les supports d'armes qui ne sont pas occupés servent de lit supplémentaire. Et on y est bien, il y fait frais.
Ah. On va s'éclater là-dedans. Et comment on rentre ?
À vous rentrer à plat ventre et puis après vous n'avez pas la place de vous retourner. Donc il faut choisir sa position.
Ouais.
Voilà, il faut choisir votre position.
On peut se retourner quand même, bon. Eh ben écoute, hein, c'est intime.
On verra, il fait très frais, on y est bien.
Il y fait frais ?
C'est l'endroit le plus silencieux et le plus frais du bateau.
Ah ouais ?
À bord ? L'environnement est hostile, tout est étriqué.
Putain, c'est pas grand.
Comment font les gars pour passer 3 mois enfermés là-dedans, alors que j'ai déjà envie de sortir pour prendre un grand bol d'air ?
Embarcation GFM de sous-marin fort éclair. Votre poste pour le chenalage à 400 mètres sur mon avant-tribord.
J'ai pris un truc dans la tête là, mais d'abord le sentiment de vivre un truc super privilégié, donc ça c'est formidable. Se dire qu'on est là où très peu de gens peuvent aller. Et puis quand même, une petite angoisse, parce qu'on est 70 dans cette boîte à savoir.
Je vous donnerai la liberté de manœuvre à l'issue de la grande passe.
Moi j'aime bien avoir ma bulle autour de moi, pouvoir m'isoler. Je ne suis pas très sociable tout le temps, en tout cas. Et donc, est-ce que je vais pouvoir faire reconstituer ma bulle autour de moi ? Ça, c'est une autre limonade.
Au passage, moi qui suis accro aux portables et aux réseaux sociaux, je serai coupé du monde. Sur le quai, l'homme à la casquette qui vient d'arriver, c'est le commandant du sous-marin, le Pacha. Il est le dernier à monter à bord. Il s'appelle Nicolas Lambropoulos, il a 40 ans et il commande le Casabianca depuis 2 ans.
Bonjour, comment ?
Vous êtes bien arrivé ?
Super.
Ouais.
Super.
C'est des textos, c'est quoi ?
Ben oui, on envoie des textos, des photos, vous savez ce que c'est ?
Les derniers, quoi.
le dernier, quoi. Ouais,
derrière nous, l'arsenal s'éloigne lentement. Et j'apprécie chaque seconde à l'air libre, avant le grand plongeon. Comment vais-je supporter cet enfermement et cette promiscuité? À côté de moi, le Pacha, lui aussi, apprécie l'instant. C'est sa dernière mission sur le Casabianca.
Ouais, ça, c'est quand même 15 ans de vie, un sous-marin nucléaire d'attaque. Je suis du style émotif et sensible.
Bon.
Donc, je suis assez nostalgique. Comme
tu passes ce tour.
Oui, pas encore, hein, parce que là...
Il reste la mission.
Il reste la mission, il reste 3 mois, mais c'est vrai que...
C'est la dernière fois que vous quittez Toulon.
Ouais, c'est vrai.
Bon.
Nous sommes bientôt parés à plonger. Il est temps de s'abriter dans les entrailles du sous-marin et de refermer derrière nous la porte étanche, notre unique rempart.
Donc là, c'est fermé, là.
Là, c'est fermé. Tout est fermé. Ouais. Et il n'y a que ça qui nous retiendra en termes d'étanchéité.
D'accord.
Lorsqu'on sera à X mètres sous l'eau, et ben, l'eau viendra au-dessus. Et c'est notre dernière barrière d'étanchéité. Voilà.
Il est panneau supérieur fermé, verrouillé, plus personne à l'extérieur.
Rapidement, après avoir quitté l'arsenal de Toulon, nous plongeons à 300 mètres sous le niveau de la mer. Le commandant du Casabianca, le Pacha, a déjà une petite surprise pour moi.
Qu'est-ce que c'est, ça, commandant, qu'on vient de nous porter?
De l'eau de mer.
De l'eau de mer.
Puisée à P.
C'était à P.
P, pression maximale. Immersion maximum à P.
On est descendu donc chercher cette eau, hein,
ouais,
ou ça?
Juste pour vous, à P. Le mieux, c'est de la boire d'un coup. Mais après, vous faites ce que vous voulez.
Eh ben voilà.
Chine. Pas mal, hein?
Bah, j'en avais jamais bu d'eau de mer, en fait.
Ça m'étonne pas. Et puis après, on embraye sur le...
Sur le champagne?
Ouais.
Ah oui, c'est mieux.
Voilà. Merci. Bienvenue à bord, en tout cas.
Merci. À la vôtre.
À la vôtre.
Merci, en tout cas, pour votre accueil.
Parmi les 70 hommes d'équipage, plusieurs visages vont devenir familiers. Damien, le second, le bras droit du Pacha. Il vient d'être promu commandant et forme son successeur, Hugues. À l'arrière du Casabianca, Pascal, instrumentiste sur le réacteur nucléaire, fils de sous-marinier.
Mon rôle à bord, je suis instrumentiste arrière. Je fais des rondes, des relevés, tous les jours. Et je m'assure du bon fonctionnement de la chaufferie nucléaire embarquée.
Et enfin Brian, passionné de littérature, en charge du compartiment auxiliaire 2 dans les entrailles du bateau.
En fait, ce compartiment, c'est assez étrange parce que vous allez avoir des heures de calme et pendant une vingtaine de minutes, une intense accélération du temps.
D'accord.
Et que ce soit pour l'esprit, pour le physique,
ouais.
C'est déroutant. Ouais. On peut s'y perdre rapidement. Quoi.
À bord du Casabianca, ce qui est nucléaire, c'est la propulsion, le moteur. Les armes, elles, sont conventionnelles. Mais à quoi servent de tels engins, puisque la France n'a pas coulé de navire depuis la Seconde Guerre mondiale? Je comprends vite qu'ils servent d'abord à montrer nos gros bras et témoigne de la puissance militaire de la France. mais ils servent aussi à observer, à écouter, à faire du renseignement. C'est ce que le Casabianca a fait, par exemple, lors du conflit libyen en 2011. J'ai deux ou trois questions à poser au Pacha.
Commandant, c'est donc là chez vous ?
Oui, voilà, ma chambre. La plus grande du bateau.
La plus grande du bateau, la plus confortable.
Solitaire.
Vous savez votre privilège.
Ah oui, parce que ça fait 15 ans que je suis aux forces marines, donc j'ai dormi un peu partout dans le bateau.
Ah oui.
Voilà.
Donc vous connaissez les
autres
pions.
Donc je connais les autres pions, exactement. Voilà.
En termes de renseignements, que peut faire un bateau comme celui-là au large d'un pays quel qu'il soit ?
Entre Misrata et Benghazi, vous avez ce qu'on appelle le golfe de Sirte,
oui.
D'accord ? Qui était fermé parce que Kadhafi a considéré que ce golfe de Sirte était ses eaux intérieures, ses eaux nationales. Or, personne ne reconnaissait ça. On ne les reconnaissait pas, mais on n'y allait pas non plus. Pas provoquer, etc. Voilà. Le sous-marin, c'est un outil qui peut aller, vous pouvez aller sans gêne dans ce golfe de Sirte, sans provoquer particulièrement, parce que ça ne se voit pas. Donc aller plus proche des côtes, observer ce qui se passait. Donc,
c'est bien la Libye. Enfin, à un moment donné dans une carrière comme la vôtre, ça rend concret tout ce pourquoi vous vous êtes préparé.
Alors moi, j'aime pas trop cette façon de voir les choses, hein, parce que je veux dire, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour prendre du plaisir à mener un combat contre quelqu'un. C'est pas un achèvement, un aboutissement de.
Non, mais c'est bien de voir un jour que tout ce pourquoi on se prépare, ça a un sens concret.
Et bien en face, si vous voulez, en Libye, le sens concret, c'est quand même des gens qui se tuent, quoi, les uns les autres. C'est ça, le sens concret. Donc,
on ne peut pas s'en réjouir.
Bah, c'est difficile, non ? Enfin, moi, j'ai un peu de mal à m'en réjouir.
Surprenant, ce Pacha. À peine 40 ans, et déjà à la tête d'un sous-marin nucléaire. Je m'étais imaginé musclore, et je découvre un homme posé, philosophe et très humain.
On m'a raconté là, que vous avez écrit à toutes les femmes de votre équipage avant de partir pour leur dire « S'il y a un problème, appelez ma femme. » Et vous lui avez donné le numéro de téléphone de votre femme en leur disant « Voilà, et ma femme me dira.
Ben, » J'espère, je ne sais pas ce qu'en pensent les gugus, mais il me semble que de savoir qu'il y a autre chose qu'un lien institutionnel possible quand on n'est pas là, il y a plus quelque chose entre femmes... qui peuvent se comprendre, qui existent, qui est possible en tout cas, qui est ouvert, ben, je pense que ça rassure, enfin c'est le plus serein. Voilà.
En tout cas, ça prouve que la Royale, c'est une famille, là, pour le coup.
Ah ouais, non, c'est une vraie famille. Ouais, la Marine, c'est une vraie famille. Ouais. C'est important de... Ouais, c'est une vraie famille.
Une vraie famille, d'accord. Mais un peu spartiate avec ses invités. J'aurais bien troqué ma couchette, moi, contre celle du Pacha.
Je vous conseille de faire des nœuds dessous les draps.
C'est-à-dire ?
Bah, quand vous faites vos draps, en fait, ceux qui sont ballants, faites des nœuds, comme ça, quand vous avez beau les enlever et les remettre, ils sont toujours en même place.
Bien ! Eh ben, il va falloir beaucoup de force de conviction pour dormir là, quand même.
Je finis par dormir, bercé par le ronronnement des souffleries. C'est ma deuxième journée d'enfermement, il en reste encore... 4.
Oh putain, on n'a plus 20 ans. Elle m'a partout.
Je commence à prendre mes marques. Ici, les quartiers habitables n'occupent qu'une toute petite partie du bâtiment. Vous avez donc la cafétéria et la cuisine. Au niveau supérieur, le carré des officiers et leur cabine. Au bout du couloir, le poste de pilotage et le centre opérationnel qui analyse les sonars. Ce matin, il y a de l'agitation. Le Casabianca s'apprête à reprendre la vue au périscope.
Quelle hauteur est-ce que vous avez la vision ?
Ben là, on hisse à 25.
À 25 ?
Le périscope sort. Et il faut qu'on soit à peu près à 16 mètres, 17 mètres.
Conditions de visée sont pas très bonnes. Attention, on pourrait bien pointer sur le 36. Top, un bateau. Dans l'eau. Ok, un seul bâtiment à la vue. À droite 20, venir au 180.
À droite,
vous l'avez vu, non?
Ah oui, oui. Parfait.
Donc en fait, on prend une photo pour rester un minimum, oui.
Voilà, donc là, on approche, on s'approche, on s'approche. Et puis quand on après, on va essayer de prendre une photo. Si. Puis, lire son nom.
Et on s'assure là, que c'est bien lui. Voilà. Que celui, les informations qu'il a transmises
sont cohérentes avec ce qu'il y a écrit dessus.
Ce qu'on voit dessus.
Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes tout près d'un bateau, qui peut être un bateau de guerre, un bateau de commerce.
Jusqu'à combien?
Il ne vous voit pas. S'approcher un bateau. On peut s'approcher très proche, 1000 mètres. Par exemple, 1000 mètres, ça fait 1 km, ça paraît loin, 1 km, mais 1 km sur un bateau qui font 300 mètres de long, qui se déplace, c'est très proche. Ben voilà, vous pouvez lire son nom, vous pouvez regarder les gens qui se déplacent sur son pont, en déduire combien ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et eux, ils ne vous voient pas, ils ne soupçonnent pas une seule seconde de plus.
Le radar ne peut pas accrocher le mât.
Non, pas à cette distance, puis de toute façon, on hisse, on regarde 20 secondes, crac, on affale. Ah. Voilà, donc c'est extrêmement discret.
Le Pacha décide de me faire plaisir. Il ordonne de hisser pour moi le second périscope, le périscope de veille. Observer sans être vu, drôle de sentiment.
Commandant, il sait pas qu'on le regarde, lui. Il a aucune possibilité. C'est assez incroyable, quand même. Imaginez qu'on est au milieu de la Méditerranée.
La machinerie nucléaire du Casabianca, vous ne la verrez pas. Elle occupe presque la moitié du bateau, mais la marine refuse qu'on la filme. Secret défense. Pour faire simple, la centrale du Casabianca produit de la vapeur que l'on transforme en électricité, qui ensuite entraîne l'hélice. Avant les années 70, on utilisait du diesel pour produire cette vapeur. Aujourd'hui, c'est un réacteur nucléaire. À la tête de l'installation, une quinzaine d'atomiciens. Arnaud est le plus jeune.
Vous êtes ingénieur ?
Ingénieur de quart, c'est ça.
D'accord. Atomicien ?
Atomicien.
Quel âge est-ce que vous avez ?
31 ans.
Et vous êtes le patron de la centrale, là ?
C'est ça.
On nous a remis ça, là, quand on est entré sur le bateau. Donc ça, ça mesure, évidemment...
Un film dosimètre. Ouais.
Voilà, c'est un dosimètre, ça mesure le rayonnement atomique. Si on reçoit des rayons, on en reçoit, ici ?
Alors ici, on en reçoit une petite partie.
Ouais.
On est susceptible d'en recevoir une petite partie.
Ouais.
La législation française fait en sorte que tout travailleur du nucléaire doit être contrôlé en permanence,
ouais,
de manière à lui admettre un temps de repos si jamais il a pris une dose supérieure à la législation.
Ouais. Vous avez pris des rayons déjà?
Bon, on en prend tous.
Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de vous enterrer dans un sous-marin plutôt que d'être à EDF ou chez Areva?
Ah bah déjà, c'est la passion de servir notre pays en tant que militaire. Après, c'est la volonté d'être marin, notamment dans mon cas, quand on est originaire de Toulon.
Ah,
et
ouais.
Troisièmement, c'est le besoin de découvrir un métier pointu, le métier du sous-marinier, et qui plus est, le métier de l'atomicien en matière de nucléaire. Voilà.
Non, parce que je dis peut-être une bêtise, mais vous gagneriez mieux votre vie chez Areva que dans l'armée française.
Peut-être.
Peut-être, c'est même certain. Et c'est d'ailleurs un problème pour la marine qui voit partir vers le nucléaire civil ses meilleurs atomiciens, au point de manquer régulièrement de spécialistes pour prendre la mer.
Traitement GV, est-ce que tu as isolé, Fabrice ?
Non, je passe sur l'avant, je te l'isole au passage.
Très bien, merci. Bon appétit.
Pour poursuivre mon exploration, je dois à présent m'équiper de lunettes de protection. Là où je vais, on redoute des projections hautement corrosives.
Voilà, la centrale ventilation, ici arrive tout l'air du bord et repart tout l'air du bord.
D'accord.
Donc on capte l'air du bateau et on le purifie ici. Et une fois que l'air est purifié, on le renvoie vers l'ensemble des compartiments du bateau.
D'accord.
Pour ça, on utilise deux usines. La première, celle-ci, qui nous permet de produire de l'oxygène.
Comment on fait pour produire de l'oxygène à 70 mètres de profondeur?
Alors, on aspire de l'eau de mer, ouais. qu'on fait bouillir. C'est avec le même procédé que pour produire de l'eau douce. Donc on obtient de l'eau déminéralisée.
Ouais.
Et cette eau déminéralisée, on l'utilise après pour casser la molécule d'eau. On conserve l'oxygène de la molécule d'eau et l'hydrogène.
Il y a l'oxygène dans l'eau, quoi.
Voilà. Donc l'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène.
De l'hydrogène H2O.
Voilà. On conserve l'oxygène à bord et on recrache l'hydrogène.
Vous pouvez rester 35 jours ou plus en totale autonomie d'oxygène.
Totale autonomie. Voilà. Donc on mesure exactement.
Sans remonter.
Sans remonter. Et ça, c'est l'apport du nucléaire par rapport aux autres sous-marins classiques. Enfin, par rapport aux sous-marins classiques, c'est justement, on a cette capacité de rester en permanence, de produire tout ce qu'il faut et de purifier notre air
en totale
autonomie.
Passer de Messine en bateau, c'est déjà pas mal.
Merci.
Mais le passer en sous-marin, c'est un luxe supplémentaire.
Vous avez une idée de la taille de cette cuisine, chef ?
Pas loin de 4 mètres carrés.
4 mètres carrés ?
Ouais.
C'est lui qui va trouver la trace du sous-marin. C'est lui qui va dire, le sous-marin, il est là.
Je pense qu'il faut que je m'arrête maintenant, parce que après, mon épouse ne me comprendra pas.
Cela fait 2 jours que nous avons quitté Toulon. On a contourné la Corse et longé l'Italie. Et si le Casabianca est remonté aujourd'hui à la surface, c'est que nous approchons du détroit de Messine entre l'Italie et la Sicile, lieu de passage très fréquenté. Je fais partie des privilégiés. Pour assister au franchissement du détroit, j'ai le droit de monter dans le massif, histoire de prendre un peu l'air.
Et voilà.
Pierre Gauthier, celui qui est là-bas, là. Le bleu.
J'avais décidé d'arrêter. Ça tient pas à l'expérience.
Déjà passer Messine en bateau, c'est déjà pas mal. Mais le passer en sous-marin, c'est un luxe supplémentaire.
Vous envoyez 3 personnes et on fait descendre.
Ça fait oublier la couchette, les 2 pets que je me suis mis sur la couchette là, au-dessus, là, ici, là, et un autre ici qu'on voit pas bien, mais qui me fait un peu mal. Là, celui-là, là. Celui-là, il me fait un peu mal.
Si la marine nous a autorisés à embarquer, c'est que le Casabianca est actuellement en transit. Dans une dizaine de jours, il sera dans l'océan Indien, théâtre de sa mission. Entre-temps, bien sûr, j'aurais été débarqué. À bord, l'ambiance est donc détendue. Le Pacha a même manigancé un petit bizutage pour l'infirmier. Il lui a fait croire qu'un câble électrique était suspendu au-dessus de la mer et qu'à l'aide d'une perche, il allait devoir le soulever. Humour de marin.
Messina Pilot Station, Messina Pilot Station. Can you confirm me that the cable crossing across the strait is still in place?
Quel anglais, détonnant.
Avec leur perche, les bisus sont prêts à la manœuvre. Mais il n'y a évidemment aucun câble accroché au pylône de Messine. Il y en avait, mais il y a plus de 20 ans.
J'ai l'impression que c'est une grosse déception, mais il n'y a pas de câble.
Il peut arriver de temps en temps que...
Que les câbles ne soient pas à poste.
Les câbles ne soient pas à poste. Ou alors que le Pacha se foute de votre tête de temps en temps. Ça peut arriver.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite photo pour immortaliser le passage de Messine avec monsieur Honnête.
Ah oui.
Bon, ça s'appelle un bisutage, c'est ça hein?
Tu peux faire décoller le tubulaire.
C'est agréable comme bisutage. Une perche, ça s'appelle une perche. Ouais, prends un peu l'air. C'est bon, vous comptez ou pas? Ouais, c'est bon.
À bord, chaque centimètre carré est optimisé. Indispensable lorsqu'il s'agit de stocker 50 jours de vivres pour 80 bons hommes. C'est donc au bout de sa couchette que le commis range les centaines de kilos de farine nécessaires à la fabrication quotidienne du pain. Chaque jour, il joue avec ses cartons une partie de Tetris assez périlleuse. Ici, tout est bas de plafond. Derrière la plonge, Cyril n'est pas le bienvenu avec son mètre 94. 3 mois en mer, plié en deux. La vie de sous-marinier impose quelques sacrifices.
Ah, ça t'est bien avec ton magnifique. Pour être sûr, pour la
Une fois qu'on s'en prend du risque.
Bah, bon appétit, hein.
Merci.
Allez, toi, t'es plutôt légumes verts.
Moi, je suis plus. Ce qu'on appelle la semelle, ça, non?
Non. Alors, tiens, on va essayer de te filer un morceau qui est pas trop mal quand même.
Celui-là,
là?
Ouais.
Dans l'ensemble, un peu de verdure.
On mange bien.
Ouais. Heureusement, les petites unités et les sous-marins bénéficient encore quand même d'une table qui reste qui reste assez sympa, qui remonte le moral, quoi. C'est vrai que le moral des troupes tient beaucoup à ce qu'il a dans son assiette. Et là, pour le moment, le moral est bon. Voilà.
Et ça, je peux mettre.
Avec extrême modération, c'est. Effectivement, il y a de l'alcool. À bord, hein, on va pas non plus diaboliser.
Mais le mec qui déconne, qu'est-ce qui lui arrive?
Le mec qui déconne, c'est pas compliqué, sa carrière, elle est explosée en mille morceaux. Voilà. C'est une fois, une seule, voilà. Même si vous avez 10 ans de carrière derrière vous.
Patron,
c'est aussi sec, c'est direct. Voilà.
Le chef cuistot, les hommes l'appellent Bocuse. Ou la cuisse, sa chambre dans la marine. Il faut être un virtuose pour travailler dans la cuisine du Casabianca. Car à bord, les flammes et le feu sont interdits. On cuisine donc tout au four ou au bain-marie.
Alors comment est-ce qu'on fait, en gros, pour fabriquer quand même à déjeuner, à dîner, pour combien de personnes?
79.
79 personnes, tous fait là.
Oui, tous fait là. Il faut être bien organisé.
À deux.
Ah oui, à deux.
Vous avez une idée de la taille de cette cuisine, chef?
Pas loin de 4 mètres carrés.
4 mètres carrés?
Oui.
Mais pas au sol quand même. Au sol, on est à moins. Au sol, on est à 1m20 sur 1m20. Ouais.
C'est assez étroit.
Et qu'est-ce que c'est, ça?
Alors en fait, ça, c'est les frigos. C'est les frigos vivres. Vous avez la plus 4. La longueur, et à gauche, vous avez une autre porte, que c'est la moins 20, c'est le congelé.
Le congelé. Donc là, c'est plus 4, c'est un frigo.
Oui, vos frigos vivres.
Ce qui est important à dire, c'est que, bon, certes, les officiers ont leur salle à manger, et les marins la leur, mais tout le monde mange la même chose.
Ils sont tous servis pareil, à part les officiers, on les dresse à l'assiette, et eux, on le dresse sur plat, mais bon, c'est le même repas.
C'est le même repas.
Le même repas.
Il n'y a que le vin qui change en haut.
Oui.
En haut, les vins sont fins. Et en bas, on est un peu à l'iced tea, et au coca et à la bière.
Dans leur salle à manger, le pacha et ses officiers disposent d'un maître d'hôtel. L'ambiance est plus feutrée et les couverts sont en argent.
Tous les vendredis soirs, c'est pizza.
Oui.
Pizza pour 77. Hein, et le jeudi, on fait repas amélioré. Voilà. Ça, ils viennent, ça c'est clair. Les pizzas, les spaghettis carbo, tout ça, ils adorent.
C'est des gamins, quoi.
Ah ben oui, le 4 heures, tout ça. Hein. Oui, c'est peut-être le reste de dessert du midi, on le donne aux 4 heures.
Ouais.
Donc voilà.
Et vous vivez avec eux, par ailleurs?
Ah oui, oui.
Vous dormez avec eux?
Ah oui, on est tous les midis et soirs. Hein. Si la nourriture n'est pas bonne ou bonne, hein, on le sait.
Vous charriez?
Oui, hein, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Hein.
C'est quoi votre surnom?
La cuisse.
La cuisse.
La cuisse et le commis, c'est le commis. Voilà.
La cuisse et le commis.
Ouais.
À bord, il faut faire le deuil de certaines habitudes. Par exemple, pour économiser de l'eau, on ne tire pas systématiquement la chasse. Avec 2 toilettes pour près de 80 gugus, je ne vous fais pas un dessin. Enfin, nouvelle délicatesse, je viens de découvrir que les poubelles de la cuisine sont stockées au pied de ma couchette. Dans ces sacs bleus, biodégradables, des déchets organiques macèrent depuis plusieurs jours. Heureusement pour moi, ils vont être évacués.
C'est quoi le jeu au fond, là?
C'est de l'eau.
Ah, c'est de l'eau, ça va. J'avais peur que le sac ait perdu un peu de son...
Oui, c'est le sac.
De son âme. Ah oui, c'est le contenu du sac, quand même.
Oui, c'est le sac.
Ça, c'est ma couchette, là. Là. Là où le sac est posé, là.
Elle n'est pas posée dessus.
La grosse poubelle qui pue, c'est ma couchette.
Ah, la cache! Non, c'est de l'autre côté.
Est-ce que là, non.
Ok, on ouvre la porte.
Donc là au fond là, c'est l'eau ça qu'on voit,
oui.
C'est la mer.
Alors non, il y a la porte extérieure, elle est étanche.
Ouais.
Et donc effectivement, il y a toujours un peu d'eau.
D'accord, mais elle sera ouverte que quand on l'aura refermée, bien
voilà,
entendu.
Quand on aura refermé.
Donc là on rentre 5 sacs, on ferme et on ouvre en dessous. C'est ça,
3 sacs.
Donc la porte extérieure est déverrouillée, maintenant vous devez compter
le nombre de tours.
37 tours, 3 quarts.
D'accord.
Allez.
2, 3, 4, 5, 6.
37 tours, 3 quarts. Ah, c'est du sport pour sortir les poubelles.
5, 6, 7, 8, 9, 30.
L'air comprimé vient de chasser les sacs.
Allez, fermez. Tenez bon.
Ah, c'est chaud.
Ouais, fermez la porte. En comptant. 37 tours 3 quarts, on ferme.
Allez, 37 tours 3 quarts.
Et c'est reparti. 37 tours 3 quarts pour refermer la porte, recharger avec de nouvelles poubelles et recommencer la manœuvre autant de fois que nécessaire.
Quand je pense qu'on râle quand on nous dit qu'il faut descendre les poubelles. Prochaine fois, je râlerai plus. Parce que comparé à l'éjection de poubelles depuis le sous-marin de Claire, c'est...
Il fallait pas faire.
Il va falloir asperger d'abord. Hein.
Ça doit sentir meilleur, là, avec des poubelles en moins.
Ouais, mais comment dire, c'est pas immédiat. Hein.
Quand on part plusieurs mois dans quelques dizaines de mètres carrés à 80 bonshommes, il vaut mieux savoir créer sa bulle. Moi, j'en ai besoin. Mais à bord, difficile de s'isoler. Toute la journée, certains transforment la salle des torpilles, ma chambre, en salle de sport. Pompe, traction, à défaut d'un bon footing. Les autres jouent aux cartes ou à la console de jeu. À bord, on est coupé du monde. Aucun journal télévisé, aucune info, sauf une laconique revue de presse envoyée par la Marine nationale. Ici, plus de jours, plus de nuits. Les rythmes physiologiques sont bouleversés. Les horaires ont été repensés pour vaincre l'ennui. 4 heures de travail, 8 heures de pause, 4 heures de travail. À bord du sous-marin, il existe un endroit peinard, dans la cale, là où travaille l'opérateur de quart qui s'occupe des égouts du sous-marin.
Bonjour.
Ryan.
Ravi de vous rencontrer.
On est où ici ?
Eh bien, on est dans le compartiment auxiliaire 2. C'est un peu la mine du bateau, c'est le compartiment le plus bas.
Ouais. D'accord. Et là, ça consiste à surveiller quoi ici ?
Donc, dans ce compartiment, on s'occupe des poulaines. En gros, des...
Les poulaines.
Des... C'est les toilettes de l'équipage.
Ah, vous appelez ça les poulaines ?
Les poulaines, on appelle ça les poulaines dans la marine. Donc, vous avez la poulaine arrière, on va dire pour tout ce qui est déchets lourds.
Oui.
Donc là, vous avez une des toilettes de la CAF et la toilette, les toilettes officiers qui viennent ici.
D'accord.
Et ensuite, une deuxième capacité ici de 600 litres qui va recevoir le
D'accord.
Le
reste. Donc ça, on remplit jusqu'à ce que ce soit à bord ?
Pas forcément. On a à peu près toutes les 12 heures, on attend de reprendre la vue.
Oui.
Ça se fait à peu près toutes les 12 heures.
Ah, parce qu'on n'évacue pas en profondeur ?
Non. On essaie de grouper au maximum ce qu'on appelle les PIG, les pastilles d'indiscrétion générale.
Oui.
Quand on arrive proche de la surface, on fait un maximum de bruit, on évacue un maximum de choses pour être indiscret pendant un laps de temps le plus court possible.
D'accord.
Donc ça, ça se passe pendant les reprises de vue.
D'accord, voilà. Ok. Dès qu'on remonte en surface.
Voilà.
Je traduis. Hein.
C'est ça.
Qu'est-ce que j'ai vu là ? Konrad, Tolstoï, du suicide, c'est un... J'adore ça. C'est ce qui vous permet.
C'est le seul moyen de s'échapper un petit peu.
Ouais.
Parce que voilà, passer plus de 80 jours dans un compartiment où il y a seulement quelques endroits où vous pouvez vous tenir debout, où le bruit est incessant et où les occupations ne sont pas forcément nombreuses, ouais. Les livres, c'est vraiment un sauve-conduit de l'esprit. Mmh. C'est vraiment salvateur.
Ouais. Et Clara Morgan ?
Ça, c'est. la petite touche personnelle des trois mecs qui sont de quart dans ce compartiment.
D'accord.
Une petite décoration pour égayer un peu l'ensemble.
Madame Morgan.
Je peux essayer le...
Bien sûr. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il est vieux, mais il est confortable.
Il est vieux, mais confortable. Pourquoi vous êtes là?
Pourquoi dans les sous-marins? D'une part, par mon éducation. Ensuite, les idéaux. Enfin, je pense qu'il faut encore une petite dose d'idéalisme dans ce monde pour réaliser ce qu'on fait. Il en faut un minimum. C'est-à-dire
les idéaux de la France?
Des idéaux patriotiques, bien sûr. Bien sûr, même si c'est difficile à avoir maintenant, je suis tout à fait conscient. Même nous, on nage en pleine désillusion en permanence. On ne sait pas vraiment... C'est difficile d'être idéaliste, mais on se force à l'être. Sinon, il n'y aurait plus aucun sens à ce qu'on est en train de faire.
Ouais.
Et la troisième raison, la raison je pense qui motiverait tous les jeunes à venir chez nous, c'est l'aventure en général. L'aventure, les doses d'adrénaline, de la convivialité et un type d'amitié qu'ils ne trouveront jamais dans le monde civil.
Jamais.
Jamais. Ben, moi, en 3 mois dans un sous-marin, je me suis lié d'amitié avec des gens plus que dans le civil en 10 ans.
D'accord.
Avec d'autres.
C'est comme ça, quoi. Donc, mais à vous écouter, il n'y a pas d'inconvénients du tout.
Il y en a des inconvénients. Les inconvénients, c'est la vie de famille qui peut être difficile. Mm. Moi, pour l'instant, ça va. 21 ans célibataire, je gère plutôt bien ma barque. Après, les conditions physiques, notre santé, bien sûr, on la bousille un peu, quoi, à bosser là-dedans. On respire de l'air artificiel, des fois de l'air qui n'est pas bon. On travaille dans un environnement gras et dangereux.
Ouais.
Le manque de lumière.
Le soleil, l'UV.
C'est difficile.
Ouais.
L'environnement extérieur commence à manquer en général au bout de 3 semaines.
Et s'isoler, c'est quoi? C'est aller se mettre dans une bulle et...
S'isoler, c'est par exemple en étant seul à son poste de quart de se plonger et de lire 5-6 livres en une semaine. Ou alors tout simplement d'aller se mettre dans sa bannette et d'essayer de dormir un peu. Ou... De toute manière, tout est sujet à nostalgie ici. Tout est sujet à nostalgie. Une photo, une odeur, quoi que ce soit, si ça vous rappelle chez vous, il faut vite l'oublier. Il faut passer à autre chose.
Bon, on est content de vous avoir rencontré dans les entrailles du bateau.
Ouais.
En fait, le mec le plus intéressant de ce bateau, il est en dessous.
Merci.
C'est
vous.
Quoi votre grade?
Second maître.
Second maître.
Étonnante rencontre. Après la marine, Brian rêve de bosser dans l'édition. Le Casabianca a été construit dans les années 80, mais sa conception est encore plus ancienne. Eh oui, le fleuron de nos forces sous-marines a été pensé il y a plus de 40 ans, à l'époque du téléphone à cadran. À bord, tout est donc très mécanique, plus proche du tracteur agricole que d'une Formule 1, à l'exception des sonars.
Devant les sonars. Le sonarman qui est devant, là, devant les écrans, il écoute tous les bruits que font les bâtiments et autour. Sa mission autour de nous.
Ouais.
Et sa mission, c'est de détecter tout ce qui passe autour de nous. D'éventuels sous-marins, des bâtiments de commerce, des bâtiments de guerre. Et ça nous permet d'être sûr que l'on connaît au mieux toute la situation qui nous entoure.
Alors notamment pour les phases de remontée, c'est...
Alors notamment pour les phases de remontée, parce que là actuellement on est sous l'eau, tous les bâtiments passent au-dessus, donc...
Aucun bâtiment ne peut venir nous percuter.
Aucun bâtiment ne peut venir nous percuter, là on a une immersion de sécurité qui nous permet d'être...
À 70 mètres. Hein.
Voilà, là on est à 70 mètres. On est bien en dessous tous les bateaux qui peuvent transiter dans cette zone. On va vous mettre sur un bâtiment de commerce, là. Ce bâtiment de commerce, on perçoit des battements.
Là je suis chez lui, là. Je suis sur le bâtiment de commerce, là.
Actuellement vous êtes sur le bâtiment de commerce, là.
136.
Et là, on perçoit des mouvements de pales.
D'accord. Comment est-ce que vous savez que c'est un bâtiment de commerce?
Alors, c'est un bâtiment de commerce parce qu'il a un bruit particulier.
Oui.
Il a aussi un nombre de pales, un nombre de tours ligne d'arbre.
Oui.
Donc, la rotation de l'hélice,
oui.
En fait, qui est particulier et qui est propre à un certain type de bâtiment. Chaque bâtiment a sa propre signature.
Et ça, lui, il le sait, ça.
Et ça, lui, il le
vous
sait.
Vous connaissez tous les bruits que font les hélices de toutes sortes de bâtiments?
À peu près.
Ouais. Oui. Fascinant, fascinant.
Alors, lui, il va être capable de distinguer des bâtiments de guerre, des sous-marins, des bâtiments de commerce, tout ce type de bateaux. Et après, on fait appel à des oreilles d'or.
Oui.
Les oreilles d'or, c'est c'est un veilleur sonore qui a des qualifications supérieures,
ouais.
qui a une expérience plus importante et qui lui est capable de dire dans tel type de classe de bateau, ben c'est tel type de bateau, c'est tel bateau.
Avec précision.
Avec précision.
Et quand on est au milieu de l'Atlantique, il y a bien des endroits où il n'y a pas de bruit du tout.
Alors, il y a des endroits où il y a très peu de bruit, mais s'il n'y a pas de bruit de navigation, il y a du bruit de faune. C'est-à-dire que vous avez des baleines, vous avez des crevettes, vous avez des poissons, vous avez...
Ça, vous connaissez les animaux aussi, à l'oreille?
Là, il va vous en, là vous en faire écouter un. Là.
Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi, ça? Ça crevette, ça?
Donc là, on a, il y a du bruit, et c'est pas du bruit humain, c'est du bruit...
Commandant,
du bruit lié à la faune,
si je dois
la
faire un métier dans ce bateau...
C'est celui-là?
Ouais. C'est celui qui me... Ah ouais, ouais. Ah oui, ça me fascine.
C'est l'aspect audio.
Tout ce que vous m'avez montré, ben, bon, ça colle avec les métiers qu'on fait. Hein.
C'est vrai.
C'est quand même un casque sur les oreilles. Moi, ma vie, trois quarts de mon métier, c'est un casque sur les oreilles.
Lorsqu'on chasse un sous-marin, tous les regards sont concentrés vers cet homme-là.
Ouais.
Puisque c'est lui qui...
Et l'oreille d'or.
Et l'oreille d'or, puisque c'est lui qui va trouver la trace du sous-marin. C'est lui qui va dire, le sous-marin, il est là.
Mon immersion à bord du Casabianca touche bientôt sa fin. Dans 24 heures, je serai débarqué au large de l'île de Chypre. Bientôt le grand air, bientôt la liberté. Pascal, instrumentiste sur le réacteur, vit également son dernier voyage. Cela fait 15 ans que ce fils de sous-marinier a signé dans les forces sous-marines.
C'est bon, tu sais recaler.
15 années pendant lesquelles son engagement a pris le pas sur sa vie de famille. 15 années à appréhender les départs et les retours à la maison. 15 années pour accepter que la vie continue, même quand on n'est pas là.
Le moment où tu rentres, c'est un moment délicat parce qu'il faut réapprendre à vivre avec l'autre. Tout en ménageant, tout en se ménageant, et on ne se... enfin, faut pas braquer. C'est pas, t'arrives pas en terrain conquis en fait. T'arrives justement, il faut que tu naturellement que tu réinstaures un certain équilibre et une certaine hiérarchie dans le couple. Tu as ta place aussi, mais ça, tu dois le faire naturellement, intelligemment. Le problème, c'est quand tu n'y arrives pas.
40% de l'équipage est donc célibataire. Pas facile pour les autres, mariés, pères de famille, de disparaître 6 mois par an. C'est un très lourd tribut à payer.
Alors mon épouse, elle comprend aujourd'hui, ce qui me stimule encore. Mais elle trouve que c'est cher payé. Voilà. Elle trouve que avoir sacrifié tant d'années, c'est cher payé. Parce que c'est 15 ans de vie entre parenthèses. Donc voilà, je pense qu'il faut que je m'arrête maintenant parce que après, mon épouse ne me comprendra pas. Ne comprendra plus. Il y a 15 ans, j'avais envie de faire un métier, le métier que personne ne faisait. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le métier de monsieur tout le monde. Voilà, j'aspire à la normalité. Ce qui va justifier mon départ un peu aussi dans la marine, c'est que bah, voilà, j'ai... Mon fils, il a 6 ans, il a besoin de moi. Aujourd'hui, il me le signifie textuellement. On a besoin de toi. C'était ses derniers mots. Et je sens qu'on a besoin de moi plus que jamais. J'ai servi ma nation aujourd'hui. Enfin, ces dernières 15 ans, dernière quinzaine d'années, j'ai servi ma nation. Ben aujourd'hui, je dois penser à ma famille. Voilà, parce qu'ils ont besoin de moi. Là maintenant, ils ont besoin. Et t'imagines un peu les parties de roller que je vais pouvoir faire. Ça va être bon, ça. Il y a plein de trucs sympas qui vont m'attendre. T'imagines pas comment je suis pressé. Ça va être bon.
Un Zodiac de la marine vient d'accoster. Il doit me conduire à Limassol, sur l'île de Chypre. Et pour être honnête, je ne suis pas mécontent de quitter le Casabianca. La promiscuité, c'est pas mon truc, même si c'était passionnant. De toute façon, je n'ai vécu qu'une croisière de complaisance. Je n'ai aucune idée de l'envers du décor. La mission militaire, l'immersion pendant 45 jours, avec la peur d'être repéré par le pays que l'on est venu espionner. Dans 3 mois, Pascal sera de retour auprès de sa famille dans la région d'Orléans. Il postulera sans doute pour travailler dans le nucléaire civil, dans une centrale, près de chez lui. Dans les entrailles du sous-marin, Brian a déjà épuisé tout Tolstoï et tout Dostoïevski. Le garçon est brillant, la marine va l'inciter à évoluer vers d'autres postes à bord du Casabianca. Nicolas, le Pacha, laissera derrière lui Toulon et son escadrille. Dans 3 ans, après un passage par l'école de guerre, il reprendra la mer à la tête d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le monstre porteur de l'arme atomique. Et moi, je pars vers de nouveaux horizons. Demain, ailleurs, j'ai rendez-vous avec d'autres hommes et aussi des femmes aux vies peu ordinaires.